Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut vous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le Jurançon, avec le Pinot Noir d'Alsace, qui serait parfait pour lutter contre le réchauffement climatique. On en parlera. Des belles adresses de chambres d'hôtes dans les vignobles. Et puis le Vino Quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Thio, Frédéric Hermine, David Cobold et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, bonjour.
Bienvenue
dans
cette émission. Invino Sud Radio retrouve Hélène Thio, chef de rubrique au magazine Régal, qui nous parle de cinéma avec une grande dame du cinéma et du vin maintenant alors.
Absolument. Avec Marie-Ange Gorbanewski, qui vient de réaliser L'âme du vin, sorti en le 13 novembre. C'est un long métrage, 1h40, qui nous parle de vin, de Bourgogne, de temps qui passe.
On l'a avec nous. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour.
Alors racontez-nous, donc c'est en salle depuis peu de temps, alors tout va bien pour l'instant?
Oui, tout va bien. En fait, il y a eu beaucoup d'avant-premières dans toute la France, dans différentes régions, en Alsace, en Bourgogne, en Touraine, et dans des régions pas viticoles non plus. Et les spectateurs ont beaucoup aimé le film, ont beaucoup apprécié de rentrer dans ces domaines étonnants, ces grands domaines de la Bourgogne, et d'observer le travail de la vigne et d'entendre parler de vin comme ça pendant 1h40. Ils se sont pas ennuyés du tout.
Alors, c'est votre premier film autour du vin. Je crois savoir que vous n'y connaissiez pas grand-chose avant de vous lancer.
Non, je connaissais le vin comme tout le monde, on va dire. Je buvais du vin.
Alors, mais qu'est-ce qui vous a pris?
En fait, moi, je me suis toujours demandé ce qu'était un grand vin. J'aime la peinture, la littérature, le cinéma, mais la musique, mais le grand vin, je savais pas ce que c'était, je comprenais pas, puis j'ai entendu aussi, j'ai rencontré un jour des grands amateurs de vin, je me suis dit c'est terrible, plus ils en connaissent, plus ils veulent en connaître, le vin était, j'avais l'impression que le vin était un monde en soi. Vous voyez, un monde très vaste, sans contour.
Alors, c'est un monde dont vous avez parfaitement défini les contours, puisque vous vous êtes arrêté à la Bourgogne et vous avez plongé dedans. Pourquoi la Bourgogne?
En fait, les vins de Bourgogne sont vraiment des vins de terroir. Et vous savez, chaque parcelle est bien délimitée depuis le Moyen-Âge. Oui, les fameux climats. Donc, chaque parcelle donne un vin avec une personnalité propre. Et du coup, dans notre monde où tout s'uniformise, justement, j'ai trouvé que ces terroirs en Bourgogne étaient complètement à contre-courant de l'uniformisation de notre monde, quoi. Là-bas, chaque parcelle a ses caractéristiques, donne un vin qui est un vrai personnage, qui ne ressemble pas à celui d'à côté. Et c'est ça qui m'a touchée.
Alors, David Cobold, je vois réagir au propos de Marie-Ange.
On peut dire ça, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette thèse, parce que l'individualisation est aussi un courant très important aujourd'hui, donc dire que tout s'uniformise, ça c'est faux, je crois. Après, en matière de vin, il y a beaucoup d'autres régions qui peuvent se prévaloir de cette approche. Je pense à l'Alsace, je pense à l'Allemagne, je pense aussi au Languedoc. Donc, ce n'est pas exclusif à la Bourgogne, même si ça a été statuifié plus tôt et davantage en Bourgogne qu'ailleurs.
Marie-Ange ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je dis pas que la Bourgogne a un terroir exceptionnel. J'ai filmé des vignerons exceptionnels, mais je dis pas du tout que
ça se limite à la Bourgogne, quoi. Ouais.
Je dis pas du tout que ça se limite à la Bourgogne. Je dis absolument pas qu'il faut pas aller voir les autres vignobles.
La Bourgogne est un bon exemple quand même. Pour le public, je pense que ça parle assez bien. Effectivement, c'est un peu statifié.
Parce que c'est cher.
Mais ça permet...
C'est cher.
Pas que par le prix. Le prix, est, bien sûr, est important. Mais c'est vrai que la définition bourguignonne, visuellement parlant, ça parle, c'est aussi très marquant. Il y a une vraie légitimité, en tout cas, à passer par la Bourgogne.
Alors, vous vous êtes inspirée, Marie-Ange, d'un fil rouge. Vous aviez besoin de conducteur pour vous emmener jusque là-bas. Il paraît que vous êtes tombée sur Olivier Poussier un peu par hasard, en surfant sur Internet.
Ah oui, oui, en fait, bon, pour les, oui, oui, pour les vignerons, en fait, pour les vignerons, naïvement, je m'étais dit, j'ai filmé les virtuoses de la musique dans un film précédent en Russie. Là, j'aimerais bien filmer les virtuoses du vin. Voilà, naïvement, hein, je ne les connaissais pas, hein. Et on m'a amené à rencontrer le véritable vigneron virtuose du vin en Bourgogne. Donc ça, j'avais de la chance. Pour la dégustation, puisque dans le film, je filme les travaux de la vigne et de la cave sur un an, dans des très grands domaines de la Bourgogne, et en même temps, il y a des dégustations, le film est jalonné de dégustations, et je me disais, il faut que je trouve des amoureux du vin. Je voulais filmer que des amoureux du vin, que ce soit des vignerons ou des œnologues ou des sommeliers. Et en regardant comme ça sur Internet, j'ai vu une vidéo d'Olivier Poussier un jour dans une dégustation et il m'a touchée par son amour, par sa passion du vin. Et quand je l'ai rencontré, après, je me suis rendu compte que non seulement il était passionné, amoureux, mais que c'était une véritable Ferrari de la dégustation, si je puis dire.
C'est joli.
Ferrari, c'est en hommage au vignoble italien.
Voilà. Très bien.
Et pourtant, il n'aime pas que le rouge. Hein. Et pourtant...
Ouais, voilà. Moi, je n'avais pas pensé au vignoble italien.
Il y a des Ferrari jaunes, Philippe.
Alors, vous avez eu d'autres mentors pour réaliser ce film. Le sommelier Philippe Bourguignon, l'immense écrivain et connaisseur du vin Jacques Puzet, la sommelière Caroline Furstos aussi, qui est l'une des très rares femmes qui apparaît. Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, dans votre film.
Non, il n'y a pas beaucoup de femmes. En fait, j'avais contacté une femme vigneronne et qui n'a pas donné suite. Alors,
elle n'a pas voulu.
Comme ça, c'est la vie. Non, c'est la vie. C'est juste parce qu'elle était occupée à autre chose.
Pendant un an, elle était occupée à autre chose ?
Non. Mais vous savez, moi, j'ai été... Pour réaliser ce film, j'ai été dans les domaines pendant un an régulièrement, observer le travail. Donc j'ai rencontré certains vignerons qui n'ont pas eu envie de participer au film parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir une femme comme ça, ou enfin une personne au-dessus d'eux, à les regarder travailler pendant un an, etc. Ils veulent bien peut-être avoir une caméra pendant un ou deux jours, mais comme
pas
ça,
temps,
pendant
quoi,
un an...
Est-ce qu'ils sont conviviaux, voilà, les vignerons bourguignons? Vous les avez trouvés comment, Marie-Ange?
Écoutez, moi, j'ai rencontré vraiment des personnes exceptionnelles. Moi, je connais pas tous les vignerons bourguignons, hein. Mais Aubert de Villaine de la Romanée-Conti, Dominique Lafont des Comtes Lafont, Christophe Roumier sont des gens merveilleux, très humains. Et vraiment, ce sont de véritables virtuoses du vin.
Merci beaucoup, Marie-Ange. Bon vent pour l'âme du vin. Il faut y aller massivement, une fois, deux fois, trois fois et sans modération. Allez voir votre film. Merci également à vous, Hélène Pio. InVino Sud Radio retrouve à présent Philippe Aubrac, président de la Sommellerie française, pour nous parler du Jurançon, mon cher Philippe. C'est pas un vin des rois, ça ?
C'est vrai que Henri IV a été baptisé, on lui a humecté les lèvres avec effectivement un peu de Jurançon à l'époque et ça l'a fait sourire le roi. Vraisemblablement, c'était un Jurançon moelleux, c'est-à-dire le Jurançon tout court, parce que si ça avait été un sec, peut-être qu'il aurait moins souri.
Du Jurançon et de l'ail, ça je suis pas sûr.
Oui, oui. Mais peut-être que l'un, justement, a équilibré l'autre.
C'est assez normal, on l'appelait le Béarnais.
Exactement. Donc nous sommes dans le Béarn, à quelques pas pour les amateurs de rugby de la section paloise, puisque nous sommes à côté de Pau sur ce vignoble d'altitude en terrasse.
Belle équipe quand même, belle équipe de Pau.
Exactement, sur le piémont pyrénéen. C'est très pentu, hein. Il faut vraiment effectivement créer ces petites terrasses, c'est les restants, comme on dit dans le sud, pour faire des amphithéâtres qui permettent effectivement de faire pousser cette vigne. On a un sol plutôt de type silico-calcaire, avec des galets roulés, qui rappellent un peu moi mon vignoble de prédilection, qui est plutôt rhodanien. Et donc le climat, quant à lui, est d'une rigueur montagnarde, mais avec une douceur océanique qui vient un peu modeler tout ça, et même parfois une certaine chaleur méridionale qui permet justement de faire des vendanges tardives pas inintéressantes du tout. La production et l'appellation couvre à peu près 1200 hectares et se fait uniquement sur des vins blancs élaboré à partir essentiellement de petits et gros mansins, c'est les cépages de prédilection, mais on peut trouver un petit peu de courbu, de camarelli ou encore de lozé qui viennent compléter effectivement cet encépagement. On trouve du sec, du moelleux et du liquoreux. Soyez vigilants, si sur l'étiquette c'est marqué que Jurançon, c'est moelleux ou liquoreux.
Ah, donc c'est pas sec.
Voilà. Exactement.
Et pourquoi il marque pas sec
quand c'est marqué Jurançon sec, c'est sec. Exactement.
Moi, les choses sont claires.
Exactement. Il faut dire que l'appellation...
Pourquoi il ne précise pas systématiquement?
Oui, c'est ça, parce qu'il pourrait dire moelleux ou sec.
Oui, mais l'appellation telle qu'elle a été définie au départ, c'était moelleux ou liquoreux. Et donc, c'est devenu sec dans un deuxième temps. Donc, on a affiché effectivement une nouvelle, quelque part, appellation, une évolution de l'appellation il y a quelques années.
Frédéric ?
Et c'est aussi parce que entre, la différence entre moelleux et liquoreux est parfois très ténue. Ce n'est pas seulement la teneur en sucre précise. Donc, comme c'était délicat de mettre moelleux ou liquoreux, parfois ces différences en termes de perception, c'était plus simple de mettre sec. Là, au moins, il y avait un peu moins de
douceur potentielle.
Voilà. C'est vrai que quand on ouvre une bouteille, on a envie à peu près de savoir si c'est un vin pour le foie gras, pour les amateurs de liquoreux.
Pour les huîtres.
Écoutez bien les Alsaciens.
Exactement, oui. C'est un peu dans le même esprit. Alors parmi les domaines emblématiques, le domaine Coap fait partie des grands noms de la région. D'ailleurs, il a été servi l'été dernier au G7 à Biarritz pour les grands de ce monde. Le terme Coap vient du béarn Cosapé qui signifie chauffe-pied. Voilà, c'est un peu le terme utilisé.
On en aurait besoin, il fait froid en ce moment.
C'est saison.
Ça,
voilà.
On s'échauffe par la bouche, c'est mieux.
C'est très fruité, c'est assez aromatique. Quand il est sec, il y a un caractère un petit peu plus floral qui intervient. Et avec le temps, moi j'adore les vieux Jurançons, que ça soit sec ou moelleux d'ailleurs.
Mais vieux, même c'est les combien d'années, Philippe ?
Vieux pour les secs, au bout d'une dizaine d'années.
D'accord.
Pour les liquoreux ou moelleux, c'est plutôt 20 ans. On a ce côté un peu truffé qui apparaît et qui est vraiment assez remarquable. Parmi les grands noms de l'appellation, à goûter un jour peut-être, le travail de Louis-Benjamin Daguenaud, son fameux jardin de Babylone. Trésor de finesse et d'élégance. Également le cru Uroula, Charles Ours, rugbyman qui est installé là-bas depuis un certain nombre d'années.
Il y a quand même plein de gens sympas dans cette région.
Depuis quelques années, c'est sa fille Marie qui prend un peu les rênes de son exploitation avec des vins très concentrés en Europe. J'aime beaucoup. Le domaine de Souche et la fameuse, parce Yvonne, que c'est une personnalité, Yvonne Egoburu, qui depuis 1987, où son fils l'a rejointe, ils travaillent ensemble, alors avec une approche plutôt biodynamique sur l'ensemble de leur vignoble, et ça donne beaucoup d'identité au vin. Et enfin, le Clos Joliette, véritable petite légende de Jurançon sur 1 hectare 8, un peu la Romanée Conti, si on veut, du sud-ouest de la France, qui s'agit très récemment du plus ancien vignoble de Jurançon.
Merci beaucoup, Philippe Orbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris Place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, Paris, Place de la Madeleine, avec Hélène Piau et le Vino Quiz.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. En l'honneur de qui Éric Dupont-Moretti a-t-il nommé sa cuvée Prestige ? Réponse A, Furbury, son animal de compagnie d'enfance. Réponse B, Furbury, feu son ami et mentor. Ou réponse C, Tintin, sa bande dessinée préférée. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau. Invino Sud Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, pour tout le dire sur le Pinot Noir, qui pourrait être le James Bond du réchauffement climatique.
Oui, ça, mon titre était un peu provocateur et ne rime pas à grand-chose. Dire que c'est la solution au réchauffement climatique, c'est un peu court. Mais par contre, le Pinot Noir devient de plus en plus intéressant en Alsace, et j'aimerais donner quelques raisons pour expliquer ça, et aussi parler de quelques vignerons, parce que j'ai visité cette région avec un thématique Pinot Noir récemment. Et c'est la deuxième fois en 2 ans que j'y vais avec ça en tête, donc j'ai un peu exploré le sujet. Les gens qui ont une vision du passé ont certainement un mauvais souvenir, s'ils ont un souvenir, du Pinot Noir d'Alsace, qui autrefois était plutôt pâle, une sorte de rosé
un peu
foncé.
Acide aussi. Hein.
Oui, acide, parce que bon, la climatologie est ce qu'elle est, mais surtout, c'est une question de rendement. Il ne faut pas oublier que les premières Pinot Noir en Alsace ont été plantées sur des clones ou des sélections massales, peu importe, pris en champagne. Alors c'est très bien la variété de Pinot Noir pour le champagne pour faire des bulles, mais ce n'est pas l'idéal comme matière végétale pour faire un vin rouge un peu plus concentré. Aujourd'hui, les jeunes générations de vignerons, de plus en plus, ont été faire des stages, voire faire des études en Bourgogne, et ils sont revenus aux surprises avec des Pinot Noir de Bourgogne sous les bras qu'ils ont plantés. C'est un des rares cépages en Alsace qui est en augmentation dans la part de la production. Aujourd'hui, c'est 11% de la surface plantée de l'Alsace, que je rappelle est autour de 15 000 hectares. Et c'est en hausse permanente. Il y a eu quelques pionniers de ça. Je constate que, selon le vieil adage, nul n'est prophète dans son pays, les Alsaciens ne boivent pas leur Pinot Noir. J'étais dans un restaurant à
Lille. Ils l'exportent ?
Oui, il exporte, il le vend d'ailleurs en France, il exporte assez massivement aux États-Unis qui adorent le Pinot Noir. Dans cette anecdote, je raconte que j'étais dans ce restaurant, j'ai fait le tour des autres tables, tous étaient alsaciens par leur accent, c'est difficile à se tromper. Et quand ceux qui buvaient du vin, tout le monde buvait pas du vin, il y avait deux bouteilles de Côte-du-Rhône et une bouteille de Bordeaux et pas un seul rouge d'Alsace.
Ce qui est bizarre quand même.
Donc il y a un problème de promotion locale, je pense qu'ils vont s'y atteler. Alors, j'ai goûté vraiment de très bonnes choses. C'est assez variable, comme dans toute région et avec tous ces pages. Mais je pense que les clés de la réussite du Pinot Noir en Alsace moderne, c'est d'abord une bonne sélection de la matière végétale et ensuite une réduction drastique des rendements. Parce qu'autrefois, on faisait des rendements à 65-70 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, les bons sont à 35.
Oui, c'est une diminution importante.
Et ensuite, un bon choix des parcelles avec une bonne exposition. Alors, c'est vrai que le réchauffement climatique les aide en cela. C'est-à-dire que vous avez des années de plus en plus chaudes.
Ils ont pris quoi, 2 degrés en 15 ans, 20 ans ?
On a pris en 30 ans 2 degrés.
C'est
énorme, hein, en moyenne. Et du coup, on peut pousser, retarder les dates de vendange si on le veut. D'ailleurs, en Alsace, on fait des vendanges tardives. C'est bien parce qu'on peut retarder. Ils sont protégés par la ligne bleue des Vosges, des puits qui viennent de l'ouest. Alors, les vins que je trouve intéressants sont vraiment faits selon la mode bourguignonne. On s'y trompera peut-être à l'aveugle avec certains vins. Moi, mon grand coup de cœur de ceux que j'ai visités, je n'ai pas visité tout le monde, c'est Albert Mann, qui est aujourd'hui tenu par une famille qui s'appelle Barthelmé, deux frères et puis toute la famille. Il y a un fils qui travaille dans le domaine, la femme Marie-Thérèse aussi. Tous les vins que j'ai goûtés chez eux sont excellents.
Et on a fait que des Pinot Noir.
Pinot Noir, on était sur un thème 100% Pinot Noir. Donc, tous sont bons. Je pense que j'ai noté tous les vins entre 15 et 18 sur 20. Donc, c'est
et
quand
on peut
même
trouver une veine bourguignonne, pas du tout, il ne faut pas comparer. C'est débile,
à part.
La question.
C'est à part. Je trouve qu'il y a plus de rondeur et de charme dans le fruit que dans les jeunes bourguignons.
D'accord.
Après, avec l'âge, les choses deviennent plus compliquées à séparer. Quelques autres très, très bons vins que j'ai goûtés, à table plutôt, pas des grandes verticales. René Muret, excellent.
Il a toujours été fort sur Pinot Noir.
Oui,
hein.
Très bon. Et Barmes-Boucher, très bon aussi. Alors, tous ces vins ne sont pas bon marché. Hein. On commence à 20 euros pour les cuvées en
fait. 20 euros la bouteille en premier prix.
Oui, pour ces bons producteurs. Hein. Et ensuite, on va grimper sur les cuvées qui sont situées dans les grands crus. Les cuvées haut de gamme sont dans les grands crus. Et je rappelle que pour l'instant, ça va changer peut-être dans l'année ou les deux années à venir. Ils n'ont pas droit au statut de grand cru, le Pinot Noir. Hein. Il y a seulement 4 cépages qui ont droit, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, le Muscat et le Riesling. Il y a un processus en cours, je crois, à l'INAO, ou en interne en Alsace, ou les deux, pour que certains grands crus soient associés au Pinot Noir. Et les vignerons qui y produisent utilisent le subterfuge de mettre l'initiale H pour Hengst, P pour le Finsberg ou le Versisberg, etc. Donc on a un petit clin d'œil. On sait que ces parcelles sont bien situées quand vous voyez une lettre initiale. D'autres bons producteurs, enfin, en devenir, Henri Fuchs. Fuchs, ça veut dire renard en alsacien. donc ils ont un renard sur l'étiquette. Je n'ai pas aimé tout chez eux, mais ils font un très joli cuvée, le 2012, rouge comme renard, je l'ai dit. François Braun, j'ai goûté un seul bon vin chez lui, le Rouge d'Alsace 2017. Et là, c'est plus abordable à 13 euros. Mais les hauts de gamme, comme je le disais chez Albert Mann,
30-40 euros, quoi.
Ah oui, 37, ouais. 45, 65 même pour les Saintes-Claires. Mais investiguer les Pinot Noirs d'Alsace, vraiment, il y a des très, très jolis vins.
Merci David Cobol de Dino Sud Radio. Retrouve Frédéric Hermine, journaliste au magazine Terre de Vin, pour nous faire partager une partie de ses rêves, en tout cas ceux avouables.
Vous faire un peu rêver avant Noël, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, pas pour dire nanana, j'y suis allée et pas vous, parce que finalement, dans ceux dont je vais vous parler, la plupart sont ouverts au moins une ou deux fois par an, aux journées du patrimoine, aux rendez-vous des jardins, aux journées particulières du LVMH, qui est un peu la même chose que les journées du patrimoine, mais sur le groupe. Et puis, des visites parfois privées dans le cadre d'une journée particulière, c'est toujours intéressant. Alors, ça se développe beaucoup en Champagne, certains même ont ouvert d'ailleurs au grand public. Je crois que les deux plus importants qui ont existé depuis déjà des décennies et même plus d'un siècle, c'est Annecy et Martel. Annecy avec le château du Bagnolet au bord de la Charente, hein, c'est une maison de style colonial avec un parc à l'anglaise, un arboretum dans l'orangerie qui appartient donc depuis 1841 à Annecy, qui après donc est devenu bien sûr LVMH. Et puis le château de Chanteloup à Martel, qui a à quelques kilomètres également de Cognac, qui maintenant bien sûr appartient à Pernod Ricard, qui lui a un style néo-normand avec des serres, des écuries, des orangeries, des daims et des cygnes dans le parc. Philippe a d'ailleurs déjà expérimenté les cygnes. Un était tombé amoureux de Philippe, il avait du mal à s'en départir.
Ah oui,
il
l'appelle le cygne du destin.
Oui, c'est ça. Donc avec au milieu des vignes, donc ça ce sont des... Deux châteaux qui existent depuis longtemps avec des chambres, mais qui accueillent les clients privés de la marque, les ambassadeurs, des gens voilà, un peu importants et qui ne sont ouverts que rarement au public. Alors, je vais vous parler de deux nouveaux qui sont alors aussi réservés quasiment intégralement à la clientèle, mais qui sont extraordinaires. Les Chais de Lasse, dans le groupe Deutz, qui viennent de refaire un nouveau chai dans la maison en plein centre de Tain-l'Hermitage. Alors des chais qui ont été, toute une structure qui a été installée dans l'ancienne maison de Jaboulet, avec trois bâtiments. Un nouveau bâtiment qui abrite des chais, qui est une merveille, avec un mur vague, qui en fait, avec des blocs calcaires, 278 blocs calcaires, qui rappellent l'ondulation des terrasses de l'Hermitage, c'est vraiment superbe. Et dans la maison, il y a à peu près 11 chambres, là plutôt contemporain, vintage, on va dire, qui peuvent accueillir quelques clients un peu privilégiés. Alors, il y a une boutique ouverte au public, hein, il y a le parc qui est magnifique, ils y ont gardé les grands marronniers, les grands magnolias, et puis ont replanté des essences méditerranéennes pour que le parc vive tout seul. Et parfois, quand il y a de la place, bon, bien sûr hors saison, et que vous avez une affinité particulière avec le maître de chais ou que vous avez fait un achat un peu sympathique, pourquoi pas demander s'il y a de la place dans une chambre ? Ça peut, mais ça n'a pas cette vocation-là au départ. Mais l'endroit est en tout cas vraiment magnifique. Quoi, oui. Donc signé par l'architecte suédois Fredrik Svenstedt, qui a signé aussi le château de Celles des Domaines Hautes le même groupe. C'est vraiment, c'est très beau. Quoi. C'est de l'architecture avant d'être un chef d'inertie.
Merci beaucoup, Frédéric Hermine. Merci également à vous, Hélène Pio, David Cobol et Philippe Forbrach. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.